autour de la question. D'où ça vient ?
Qu'est-ce que ça va changer ?
C'est pour qui ?
À quoi ça sert ?
Caroline Lachowski.
Bonjour, ravi de vous retrouver, chers amis auditrices et auditeurs, dans la nébuleuse de l'œuf au plat. Aujourd'hui, pour déguster des bouchées planétaires, un clafoutis d'étoiles ou une crêpe solaire flambée avec quelques bonbons en orbite dans nos lentilles célestes. Pourquoi faire rimer astronomie avec gastronomie ? Comment décrypter les phénomènes cosmiques les plus complexes à partir de simples recettes de cuisine ? Et pourquoi la métaphore culinaire fonctionne aussi bien en astrophysique ? Embarquement immédiat pour un voyage intersidéral dans l'espace de la cuisine de Geneviève Hanoury, conceptrice et réalisatrice de la géniale série documentaire Astronome Gastronome. Visible sur le blob, l'extramédia d'Univers Science, une série alléchante et réjouissante de 20 fois 3 minutes, conçue donc dans la cuisine de Geneviève, en étroite collaboration avec les plus brillants astrophysiciens et astrophysiciennes comme Anne-Marie Lagrange, détecteuse et spécialiste des exoplanètes, qui nous fait le plaisir d'être en direct avec nous, ainsi que l'astrophysicien Sébastien Charnoz, formidable observateur de notre système solaire et notamment des lunes de Jupiter et Saturne, qui est aussi à l'origine de cette question qui va nous nourrir aujourd'hui. Qui a mangé la soupe cosmique ? Tiens donc, bienvenue, et pour nous ouvrir l'appétit, on commence par une petite brioche universelle au raisin. Attention tout de même à l'expansion de notre brioche, comme à celle de l'espace-temps.
L'expansion de l'espace-temps, c'est comme la cuisson d'une brioche au raisin. La pâte à brioche gonfle et se dilate. Les raisins galactiques s'éloignent les uns des autres. Là où les raisins restent collés, on appelle ça un amas de galaxies. C'est l'espace-temps lui-même qui est en expansion, comme la pâte de la brioche qui gonfle au four. Sauf que l'univers, lui, se refroidit à mesure qu'il s'étend. Est-ce que la pâte de l'univers va gonfler à l'infini ? La recette exacte de l'univers est encore à découvrir. Contrairement à celle de la brioche au raisin.
Bonjour Geneviève Hanoury.
Bonjour.
Merci pour ces sidérantes recettes que vous partagez donc dans cette géniale série Astronome Gastronome. Des recettes que vous avez concoctées dans votre cuisine. L'idée originale, on va y venir, hein, vient de vous Geneviève, vous allez nous raconter ça. Mais vous avez tout de même été soutenue dès le départ par l'astrophysicien que vous êtes, Sébastien Charnoz. Bonjour.
Bonjour.
Autour donc d'une première exposition, c'était au Palais de la Découverte, à laquelle nous avons d'ailleurs emprunté le titre de cette émission, Qui a mangé la soupe cosmique. Vous avez ensuite été rejoint par les plus brillants astrophysiciens et astrophysiciennes, comme vous, Anne-Marie Lagrange, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous n'avez pas hésité, comme vos éminents confrères, on peut citer Jean-Pierre Bibring ou David Elbaz, à rejoindre le conseil scientifique de cette série Astronome Gastronome, visible, je le rappelle, sur le site du blog L'Extramédia d'Univers Science, et bien sûr que nous mettons le lien sur notre page. En gros, c'est 20 fois 30 minutes de vidéo qui donne l'eau à la bouche, du bouillon terrestre au macaron protoplanétaire, en passant évidemment par les lentilles célestes et quelques bonbons en orbite. Un vrai régal qui rend intelligent en plus, parce qu'on y comprend tout, ou presque, grâce à ces métaphores culinaires. Geneviève Hanoury, c'est dans votre cuisine que vous est venue l'idée. Vous aviez déjà réalisé une étonnante série, vous êtes vidéaste, artiste et de sujets scientifiques sur la pourriture, tiens donc. En photographiant une série de moisissures de pommes, vous avez eu l'idée, c'est ça, de cette série métaphorique où dans votre cuisine, vous refabriquez, reconstruisez, nous expliquez l'univers, carrément.
Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'en regardant, par exemple, une orange moisie, on se rend compte que ça ressemble à une planète. Et d'ailleurs, ce n'est pas moi qui ai commencé, parce que les astrophysiciens eux-mêmes parlent de soupe cosmique. Jean-Pierre Luminet parle de crêpe stellaire flambée pour une étoile qui est avalée par un trou noir. Enfin, on parle de l'expansion de l'univers comme un cake au raisin, dont les raisins s'éloignent les uns des autres.
Donc, il y a beaucoup de métaphores astro-culinaires.
Oui, parce que je pense que ça donne des sensations, et pour moi c'était une façon de partager mon propre émerveillement en fait devant ce que les astrophysiciens nous apprennent de ce qu'est le monde. Et moi, ça change mon rapport au monde, en fait, d'entendre ces histoires scientifiques. Et du coup, j'avais envie de transmettre par quelque chose qui est très dans la sensation, mmh, et avec des objets simples, hein, très low-tech, et faire du grand high-tech avec des choses très simples qu'on peut faire dans notre cuisine.
C'est complètement hallucinant, c'est vraiment les mains dans la main dans la pâte et les mains dans la pâte pour nous expliquer carrément l'univers, hein, laissant des étoiles, mais aussi la matière, le temps. Alors Sébastien Charnoz, l'astrophysicien que vous êtes, je rappelle professeur de sciences planétaires à l'Université Paris-Cité et à l'Institut de physique du globe de Paris, spécialiste de formation planétaire, découvreur entre autres de deux lunes de Jupiter, a tout de suite été emballé par cette idée de Geneviève Hanouri. Pourquoi ? Parce que c'est un bon moyen de faire passer votre science astrophysique avec non pas des bouts de ficelle, mais de la farine, des œufs et du sucre coloré ?
Ben oui, effectivement. En fait, le projet est né il y a maintenant une douzaine d'années. À l'époque, Geneviève et moi, en fait, on avait des activités complètement différentes, mais au sein de la même association qui s'appelait la Fondation 93, qui avait pour objectif de promouvoir les arts et les sciences dans des collèges et des lycées de la Seine-Saint-Denis. Et à cette occasion, donc moi, je faisais des présentations en astronomie pour promouvoir l'astronomie, pour faire découvrir l'astronomie aux collégiens. Et Geneviève, elle, avait une démarche artistique pour leur faire découvrir les sciences à part une démarche artistique, voilà. Et en fait, on s'est rencontrés. Et quand Geneviève m'a montré ce qu'elle faisait avec ses photos, ses montages, tantôt avec du sucre, tantôt avec du miel, tantôt avec des œufs en mélangeant de l'eau et le lait, c'est vrai que l'émerveillement était là et j'ai découvert en discutant avec Geneviève et avec les jeunes en fait que c'était un merveilleux média en fait pour discuter d'astronomie, pour faire découvrir des mécanismes. Et c'était vraiment un support qui permettait de faire passer beaucoup d'informations et ce qui permettait aussi de faire partager en fait aux jeunes l'émerveillement aussi qu'on a face tout simplement face à l'univers. Et ce que j'ai trouvé de magnifique, c'était l'idée qu'en fait l'émerveillement, on peut l'avoir face à l'univers qui, mm-hmm, dans sa beauté, ouais, sa grandeur, ouais, nous écrase un petit peu. Mais en fait, l'émerveillement, il peut être tout simplement en fait juste sur sa table de cuisine. Il suffit de poser le bon regard. Voilà.
Et je confirme qu'en plus, non seulement ça donne envie de faire ça tout seul aussi dans sa cuisine, mais quand on regarde ces films, on comprend certaines choses que vous sur lesquelles vous travaillez dans vos recherches, hein, Anne-Marie Lagrange. Vous êtes astrophysicienne, spécialiste de l'exploration et de la détection des exoplanètes, lauréate de prestigieux prix scientifiques. Pour vos recherches et vos découvertes, vous avez réussi à conseiller Geneviève sur la meilleure manière de nous représenter l'irreprésentable, quoi, les exoplanètes et dans leur diversité.
Alors, bon, moi, je pense que c'est représentable et Geneviève le fait,
oui,
très bien, justement.
C'est ça, hein. Ouais, c'est
Il
vrai.
Suffit de trouver les bons mots, les mots qui vont parler à chacune d'entre nous. Et moi, l'idée de la cuisine, des métaphores culinaires, je la trouve géniale. Et comme vous dites, ça fonctionne bien. Ça fait appel à des processus qu'on peut décrire. On peut faire beaucoup d'analogies. Ça marche juste bien. Il y a plein d'exemples comme ça.
Il y a plein d'exemples. J'ai envie de citer ceux que tweet Éric Lagadec, alors astrophysicien à l'Observatoire de la Côte d'Azur, qui fait partie de notre équipe généreuse de l'astronomie Afrique, qui fait gagner avec nous des lunettes astronomiques sous le ciel d'Afrique. À ce propos, vous retrouverez tout à l'heure, chers amis auditrices et auditeurs, notre éphéméride mensuelle du ciel d'Afrique avec Sylvain Boulet. Mais tout ça pour dire que Éric Lagadec, sur Twitter, nous rappelait qu'une étoile hypergéante était surnommée la nébuleuse de l'œuf sur le plat, qu'une autre nébuleuse planétaire était surnommée le trognon de pomme, sans oublier donc la galaxie de la crêpe. On l'a dit, est-ce que pour l'astrophysicienne, l'astrophysicien que vous êtes, les métaphores culinaires, ça parle? Geneviève l'a dit, on en a entendu beaucoup, rien que la soupe primordiale. Hein,
Ben oui, les métaphores culinaires, c'est quelque chose déjà, comme nous mangeons tous, c'est quelque chose que nous partageons tous.
C'est vrai.
Fait partie d'une des activités la plus partagée. Et puis aussi, ce que je me disais, c'est tout simple, mais la cuisine, c'est une des activités dans laquelle en fait on utilise des lois de la physique tout simplement parce
sans s'en rendre compte
sans
tout
s'en
temps.
Rendre compte. La cuisine elle-même en fait c'est un processus physico-chimique, mm-hmm, et on prend la pâte, on la fait chauffer, elle va commencer à gonfler, on va avoir par exemple deux fluides, si vous mélangez de l'huile et de l'eau, vous voyez en fait tout un tas de processus physiques, mm-hmm, assez subtils, mm-hmm, qui s'exercent sous vos yeux. Et la cuisine, c'est aussi le lieu où vous pouvez encore voir ces choses devant vous, voilà. dans nos vies d'aujourd'hui.
Virtuelles, souvent.
Voilà, on n'a plus beaucoup l'occasion ça d'être confronté en fait aux mécanismes naturels, si ce n'est on n'y fait plus attention. Dans la cuisine, on y fait attention et on les regarde. Mélanger de l'huile et l'eau, et vous verrez, il va se passer plein de choses très étonnantes. Voilà.
Autour de la question, qui a mangé la soupe cosmique ? Allez, on remonte au début, au tout début de l'univers, avec un nouvel extrait de l'épisode 20 de la série Astronome-Gastronome, intitulé « Au début était la crème fouettée ». Chacun appréciera.
Pour faire une tarte aux fraises, il faut des fraises, de la farine, du beurre, la terre où pousse le blé, l'herbe que broute la vache, la planète Terre, qui est le seul endroit connu où tout cela peut se passer, le Soleil, qui nous éclaire le jour, le système solaire, où se trouvent le Soleil et la Terre, la galaxie, où se trouve le système solaire, et ainsi de suite. Pour faire une tarte aux fraises, il me faut l'univers tout entier. Et pour faire l'univers, faisons-nous fausse route en cherchant toujours un point où tout commence ? Pouvons-nous imaginer une histoire sans début ?
Pas de réponse, évidemment, Geneviève Anouri au menu, mais des questions carrément philosophiques que vous vous posez dans votre cuisine et à l'aide, alors dites-nous à l'aide de quoi vous travaillez, notamment là, alors on parle de tarte aux fraises, on parle de crème fouettée, mais enfin, au fond, on parle du tout début de notre système solaire et de la Terre.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que, en fait, l'idée de... on devient philosophe, en fait, quand on regarde le ciel étoilé, quand on... Ça nous ramène à des questions essentielles. Mmh. Et c'est vrai que, dans la série, j'ai eu envie, oui, de soulever ces questions. Et évidemment, il y en a plein qui restent sans réponse. Et de donner... De mettre ces grandes questions devant un support aussi simple, par exemple, qu'une goutte de lait qu'on met dans une toute petite boîte de pétri remplie d'eau, si elle est bien éclairée, ça fait vraiment des volutes magnifiques. Et on a l'impression que ce sont des nébuleuses ou si vous mettez par exemple une goutte très foncée de colorant alimentaire dans du lait blanc et vous le faites tourner avec par exemple un jet de dentaire sur le côté qui va sur le côté d'un bécher ou d'une plus grande boîte de pétri, vous allez avoir un très beau trou noir parce que le colorant alimentaire noir ou enfin bleu en général, vous allez le voir tourner au milieu du liquide jaune par exemple et vous allez avoir l'impression que c'est le liquide jaune qui rentre dans le trou noir. Et ça marche très très bien.
Insensé quand même, je ne sais pas qui veut réagir là-dessus, peut-être vous Anne-Marie Lagrange, sur ce trou noir. Effectivement, moi en regardant vos vidéos, Astronome, Gastronome, déjà j'ai le sourire aux lèvres, vraiment, et des éclats dans les yeux, mais en plus, je comprends, mais on arrive à toucher un peu des phénomènes qui nous semblent totalement incompréhensibles.
Voilà, en fait, on les touche ou on les voit plutôt.
Oui.
On voit des processus. Pour moi, il s'agit de processus physiques qui existent dans les trous noirs, dans les systèmes planétaires qui se forment et dans la cuisine aussi. Mais la physique, même si ce n'est pas tout à fait la même, il y a vraiment des très, très fortes analogies. Et parfois, c'est exactement la même. Quand vous faites fondre quelque chose, c'est de la matière en fusion. C'est...
Et la matière, justement, enfin, puisqu'en fait, il s'agit de matière, soit de la matière interstellaire, on sait bien que c'est la même matière qui nous constitue. Peut-être aussi, Sébastien Charnoz, qu'il y a quelque chose à voir avec la matière, justement, le fait de toucher ces différentes matières, ou à ces différents niveaux, à ces différentes échelles, et ça vous concerne.
C'est sûr qu'il y a des analogies entre des processus à très grande échelle qui se passent dans l'univers, des processus à beaucoup plus petite échelle qui se passent dans notre cuisine. Par exemple, il y a des processus de mélange que l'on voit beaucoup dans les vidéos de Geneviève, qui sont aussi très importantes, par exemple dans les processus de formation planétaire, on va mélanger des grains et du gaz. Dans les vidéos de Geneviève, on va mélanger des liquides ou des grains de nature différente. Donc voilà, donc il y a des analogies. Donc, je trouve que justement, ces analogies, le simple fait de les voir, permettent de faire passer le message pédagogique de manière beaucoup plus efficace. Et en plus, il y a une dimension esthétique qui fait qu'en plus, le message est d'autant plus frappant.
Oui,
et en astronomie... Je pense que la motivation esthétique est quelque chose de très puissant aussi pour non seulement pour les chercheurs mais aussi pour le grand public.
C'est voilà. Ça, c'est qu'il faut retrouver au fond aussi un émerveillement, même si c'est à petite échelle et devant des choses du quotidien qu'on peut avoir devant l'immensité intergalactique. Il y a un peu cette idée-là, Geneviève.
C'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, les processus qu'on voit ne sont pas générés par les mêmes forces, puisque les forces qu'il y a dans l'espace, voilà, il y a souvent des forces qu'on ne peut pas refaire dans notre cuisine.
Dans votre petite cuisine, non, c'est clair.
Mais parfois, il suffit de donner un petit coup de pouce à quelque chose qui est en macro. La plupart des images sont faites en macro. Et ça veut dire donc à toute petite échelle, on regarde ça de très près. Et du coup, bah, c'est vrai qu'une fois qu'on a agrandi ça sur un écran, on se retrouve dans la même proportion. En fait, notre propre corps est à la mesure de l'image qu'on voit en astronomie.
De l'infiniment petit à l'infiniment grand. Un exemple de cette transformation entre vraiment du macro à un exemple culinaire.
Oui, ben, par exemple, il y a un exemple tout simple. Quand vous regardez une crêpe, ça ressemble souvent à la Lune, enfin à la surface de la Lune.
Oui.
Alors, si vous prenez, donc nous, on a pris un blinis, donc si par exemple, ce blinis, en regardant la Lune, parce que ça, c'est important, en fait, j'ai beaucoup, beaucoup regardé les images d'astronomie.
Ah oui,
ensuite, en observant beaucoup d'images d'astronomie, en les ayant vraiment dans la tête, après, ça devient presque une obsession. Dès que je regarde de la nourriture, ça me donne des idées pour faire telle ou telle image d'astronomie. Donc, si je reviens, par exemple, à la surface de la Lune, un blinis...
Et à votre crêpe et à votre blinis,
voilà,
oui.
Vous le mettez dans la poêle et vous appuyez à un endroit pour qu'il brunisse, pour que ça ressemble aux mers qu'on voit sur la Lune. Quand vous regardez la Lune, il y a un endroit qui est un peu plus sombre. Et donc, si vous appuyez sur le blinis à un endroit, vous allez vous retrouver avec une espèce de tache plus brune. Et quand vous filmez ça, ben vous retrouvez un peu la Lune. Voilà. Et quelqu'un qui va regarder le blinis va tout de suite comprendre si vous la placez sur un fond étoilé fait avec des sucres saupoudrés, par exemple. Tout de suite, on reconnaît la Lune. Même si on sait, et il y a ce jeu avec le spectateur, il voit le blinis et il voit la Lune. C'est ça qui est amusant.
Ah, c'est ça qui est génial. Autour de la question, qui a mangé la soupe cosmique ? Je propose de nous arrêter. Alors, on est à la radio, c'est pas en image, mais quand même, sur le délicieux fumet du bouillon terrestre dans lequel nous sommes tous nés, et qui nous explique donc, entre deux bouchées de pop-corn, une louche de pâte à crêpes, justement, comment la Terre ne s'est pas formée en un jour dans les fourneaux du grand cuisinier de l'univers.
La Terre, Mars et Vénus se sont formées au même endroit du système solaire à partir de la même recette. Pourtant, elles ont eu une évolution très différente. Il y a 4,5 milliards d'années, le système solaire est beaucoup plus agité qu'aujourd'hui. Les collisions sont permanentes. Les objets célestes tournoient et se percutent comme dans une gigantesque machine à pop-corn. La jeune Terre, elle aussi, est bombardée de comètes et d'astéroïdes glacés. Mais comme elle est volcanique et molle, l'eau s'incorpore dans le magma comme du lait dans de la pâte à crêpes. Elle est ensuite propulsée par les volcans sous forme de vapeur d'eau. Ce sont les premiers nuages.
Poétique, évidemment, mais Sébastien Charnoz, c'est scientifique, tout ça. C'est quand même comme ça que la Terre, Mars et Vénus se sont formés.
Non, je ne sais pas si c'est la Terre, Mars et Vénus se sont formés exactement comme ça, mais je pense que c'est comme ça qu'on décrirait un petit peu la formation de la Terre, la formation des planètes terrestres, donc la Terre, Mars et Vénus. Oui, donc effectivement, l'idée au début, c'est une grande recette, parce qu'on pense que les premiers embryons planétaires étaient très chauds. La raison pour ça, c'est qu'il y avait beaucoup de matériaux radioactifs, et donc à cette époque, donc on pense que vraiment toutes les planètes terrestres se sont formées est fondue. Et donc, il y a eu ce grand mécanisme d'incorporation parce qu'au début, dans le disque protoplanétaire, il y avait énormément de mouvements. Comme ça a été dit dans la séquence audio, il y avait des objets qui venaient de la ceinture d'astéroïdes, peut-être aussi des comètes qui ont pénétré le système solaire interne, qui, on pense, ont apporté leur eau à la région des planètes terrestres. Et ça, c'est très important parce que c'était une région qui était très pauvre en eau, on pense, initialement. Et l'eau arrivant dans ce magma chaud s'est incorporée aujourd'hui dans nos planètes. Et il faut savoir aujourd'hui qu'il y a plus d'eau en fait dans le manteau terrestre qu'en surface.
Dans le manteau terrestre,
oui. Alors, c'est peut-être pas de l'eau sous forme liquide, mais l'eau, il y a plus d'eau qui a été incorporée dans le manteau terrestre qu'il y en a aujourd'hui à la surface de nos océans, quoi. Voilà, nos océans.
Voilà qui donc, nous éclaire, qui nous fait partager voilà, ce donc, qu'on ne sait
la,
pas.
Enfin, c'est... Notre pâte à crêpes, je ne sais pas comment dire, notre bouillon primordial de la Terre a incorporé plein d'ingrédients qui viennent de plein d'endroits dans le système solaire. Et d'ailleurs, ce qui pose beaucoup de problèmes aujourd'hui aux chercheurs, parce qu'on s'aperçoit que pour comprendre la composition des planètes terrestres, qui toujours relativement mystérieuse à bien des égards. En fait, on s'aperçoit qu'il faut en fait comprendre toute l'évolution globale de tout le système solaire parce qu'il y a dû avoir énormément de mélanges. Une bonne partie du matériau sur Terre peut-être ne s'est pas formée autour de la Terre.
Voilà. Ouais, voilà pourquoi c'est de plus en plus complexe et voilà pourquoi c'est pas vraiment une simplification mais une mise en image de ce qu'on sait aujourd'hui du macro au micro et du micro au macro nous permet de comprendre Anne-Marie Lagrange pour ce qui est de plus loin, au-delà de notre système solaire. Est-ce qu'on comprend un peu aussi comment se sont formées les milliards de galaxies est-ce qu'on comprend un petit peu mieux et est-ce que c'est aussi comme ça, aussi divers, aussi complexe, aussi...
Alors, pour les systèmes planétaires en général, le système solaire, a priori, c'est un système parmi des milliards d'autres.
C'est ça.
Nous, on part de petits grains de poussière et de gaz. Donc là, pour continuer dans les analogies, on partirait de petits grains de farine. Et à partir de là, il faut accumuler beaucoup de la matière pour arriver à faire des objets de la taille des grumeaux dont parle Sébastien. La physique est la même. Il y a peut-être, je ne sais pas s'il y a une recette ou s'il y en a beaucoup pour continuer dans la métaphore, mais on peut parler un petit peu d'une recette. Et en fait, Laplace, au XVIIIe siècle, qui a produit la première idée de ce qu'on appelle la nébuleuse de Laplace, c'était ça, c'était de la matière qui s'effondrait sur elle-même et qui formait des grumeaux de plus en plus grands.
Les grumeaux, ça parle à tout le monde.
Les grumeaux, aux cuisiniers, oui.
Pourquoi le soleil ressemble un peu à un œuf sur le plat, tiens donc, et pourquoi notre système solaire n'est pas le seul dans l'univers. On va s'éloigner bientôt de notre système solaire, on va peut-être goûter à d'autres bouchées planétaires avec vous, Anne-Marie Lagrange, mais pour ça, il va falloir sortir de notre petite cuisine terrestre pour se mettre tout de suite à l'écoute des sons de la NASA, mixés et surtout mis en musique par le compositeur minimaliste américain Terry Riley. Interprété par le Kronos Quartet. Voici, et merci pour ce choix musical, Geneviève Anouri, voici le premier mouvement de son concert, Sun Rings, Anneau solaire.
You have to literally just pinch yourself and ask yourself the question silently, do you really know where you are at this point in time and space and in reality and in existence? When you look out the window and you're looking back at the most beautiful star in the heavens, the most beautiful because it's the one we understand and we know, it's we're home, it's humanity, it's people, family, love, life. And besides that, it is beautiful. You can see from pole to pole and across oceans and continents, and you can watch it turn and there's no strings holding it up. And it's moving in a blackness that is almost beyond conception.
One bird. One people. One world.
Thank you. Earth. One people.
Extrait des Sun Rings à partir des sons de la NASA, composé par Terry Riley, interprété par le Kronos Quartet. Merci pour ce choix musical. Geneviève Hanoury, vous avez bon goût, pas très étonnant, pour la réalisatrice d'Astronome Gastronome, cette série vidéo géniale à voir sur le blog d'Univers Science et dont nous dégustons quelques échantillons sonores autour de la question « Qui a mangé la soupe cosmique ?» Qui donc ? Tiens, nous sommes en direct avec les astrophysiciens Sébastien Charnoz et Anne-Marie Lagrange, conseillers scientifiques de cette série à nul autre pareil, ludique, artistique, scientifique et gastronomique. La preuve tout de suite avec l'épisode numéro 10 d'Astronome Gastronome, à la densité très gourmande puisqu'on s'y retrouve au bord d'un trou noir avec du sirop de grenadine et qui s'intitule « On a marché sur la crêpe ».
Une planète, un gâteau, un arbre, une forêt, un animal... N'importe quel objet est fait de matière, c'est-à-dire de particules en mouvement, séparées par du vide. Contrairement aux apparences, la densité moyenne de tout l'univers est fabuleusement plus faible que celle d'un artichaut. Et même que celle de l'air. Le Soleil a, en moyenne, la densité du sirop de grenadine. Dans l'univers, il suffit qu'il y ait 100 ou 1000 particules par mètre cube pour qu'on dise qu'il y a beaucoup de matière. Alors que sur Terre, dans une cuillère à café de bouillon, le nombre de molécules de matière est de 1000 avec 20 zéros derrière. Les trous noirs les plus massifs ont la même densité que l'air. Mais on pense qu'à l'intérieur, la matière est entièrement concentrée au centre. Leur force d'attraction est si puissante que même la lumière, qui est la plus rapide de l'univers, n'arrive pas à se propulser à l'extérieur et reste prisonnière au fond du trou.
Et nous voilà au fond du trou noir, ou presque. Comment faire passer le vide spatial qui n'en est pas, mais aussi la densité d'un trou noir avec de l'artichaut, si j'ai bien entendu, du sirop de grenadine et une cuillère à café, Geneviève Hanoury.
Alors oui, l'idée c'est vraiment, bon déjà, d'interroger les scientifiques qui sont toujours partants, j'ai trouvé vraiment pour ce genre d'exercice.
Faire passer la science et s'amuser, enfin oui, s'amuser, aller un peu aux limites.
Voilà. Et donc, en les interrogeant, moi, je reprends, donc j'écris le texte, ensuite je le fais valider par eux, et c'est là que j'essaye de trouver un maximum d'images qui vont être parlantes, clarifier un peu le
propos
maximum.
Et tout ça dans votre cuisine, on essaie de trouver des recettes, des possibilités.
Voilà. Ensuite, de transposer, de donner une image qui va aller avec ce texte qui est validé par les scientifiques. Et donc, c'est ce jeu, en fait, qui fait qu'après, j'essaye de trouver... aussi parce que mon regard s'aiguise, ça devient presque obsessionnel, en fait. Chaque fois qu'après, je regarde de la nourriture, même un reste d'assiette de mozzarella et d'huile d'olive, par exemple, peut faire une très belle étoile. Enfin, il y a toujours... j'ai toujours ça en tête. Et du coup, c'est comme ça, un peu, que je trouve les images et qui peuvent ensuite fonctionner.
Vous parlez de mozzarella, Geneviève Hanoury. Alors, il se trouve que nous avons reçu récemment Joanne Kik, médiateur scientifique à Univers Science et auteur spécialiste des planètes et auteur de l'eau dans l'univers. Et voici comment il voit la planète Io.
Donc Io, un des satellites de Jupiter, possède une surface étonnante, avec de très belles couleurs, et fait vraiment penser à une pizza. C'est-à-dire que vous avez le rouge de la sauce tomate, le noir des olives, le jaune et le blanc qui pourraient être de la mozzarella. Et en fait, ces différences de teintes correspondent à des différences de température.
Une pizza lunaire, en quelque sorte, autour de Jupiter, parce que je me suis trompée, Io, c'est pas une planète, c'est un satellite, une lune de Jupiter. Est-ce que ça vous va, Sébastien Charnoz, vous connaissez bien ces planètes et leurs satellites?
Oui, c'est vrai que les satellites des planètes géantes, souvent ont été comparés à des objets culinaires. Donc effectivement, donc la première fois que Voyager, donc Io est connu depuis très longtemps, hein, depuis Galilée, donc c'est un satellite de Jupiter. Mais la première fois qu'on en a fait une image à haute résolution, ça doit être, si je me trompe pas, en 1979 ou 1980, quand Voyager 1 est passé au voyage de Jupiter. Et là, on a découvert en fait un satellite volcanique. Et c'est un satellite qui est très riche en soufre. Et la chimie du soufre est très, très diversifiée et donne lieu à des composés de plein de couleurs différentes. Donc, il y a du rouge, il y a du blanc, il y a des zones plus froides qui sont noires, hein, des zones plus chaudes qui vont être brillantes. Et donc, André Braik, mon ancien directeur de thèse,
magnifique,
pour qui j'ai la plus grande affection, me racontait effectivement que les Américains, lors des premières images de la découverte de Io, s'étaient exclamés « mais ça ressemble à une pizza ». Voilà. Bon, alors après, il y a eu d'autres découvertes de satellites qui ont donné lieu à d'autres analogies.
Par exemple,
moi, j'ai eu la chance de faire partie de la mission Cassini, où en 2007, je crois, on a fait les premières images des toutes petites lunes qui sont dans les anneaux. Les images à haute résolution, parce que c'est toujours pareil, on les connaît, on sait qu'elles sont là parce qu'on voit un point.
Dans les anneaux de...
Dans les anneaux de Saturne.
Dans les anneaux
voilà,
de Saturne,
oui.
Hein,
Cassini
c'est ça.
Mission qui est oui. de 2004 à 2017.
Et en fait, ce sont des toutes petites lunes autour de
voilà,
Saturne.
C'est des lunes qui font, voilà, c'est des lunes qui font quelques kilomètres et on a été très étonnés parce qu'elles n'ont pas du tout des formes sphériques. Elles ont des formes, alors là, il y a des formes... Nous, on a trouvé que ça ressemblait à des madeleines. Les Américains ont trouvé que ça ressemblait à des raviolis. Il y en a d'autres qui ont trouvé que ça ressemblait à des soucoupes volantes. Bon, bah, c'est moins culinaire, mais il y a toujours cette idée qu'en fait, il y a un bourrelet central et ensuite, il y a une espèce d'énorme... Enfin, il y a une boule centrale et ensuite, il y a une sorte de couronne à l'équateur.
C'est ça, oui, voilà. Madeleine ou ravioli, on voit
voilà,
bien.
Donc madeleine ou ravioli en fonction des sensibilités, voilà. Donc, il y a des satellites dont on trouve aussi, parce qu'ils sont allongés par les effets de marée, dont on a dit que ça ressemblait à des cacahuètes, etc., etc. Et voilà, donc les métaphores culinaires continuent à s'accumuler.
Anne-Marie Lagrange, je crois que pour vous, la pizza, vous vous en servez mais autrement en tant que métaphore?
Oui, moi, je m'en sers pour expliquer la... Enfin, c'est pas pour expliquer, mais pour donner une analogie avec... Pour former toutes ces planètes dont on parle, elles se forment pas dans une boule, en fait, elles se forment dans un disque. Et on part d'une boule, de cette fameuse nébuleuse de Laplace. Donc, souvent, je prends l'analogie, on prend une pizza, une boule de pâte à pain, on la fait tourner... Et on obtient quelque chose d'aplati. Voilà.
Et voilà comment se forment les planètes, voire même les exoplanètes. Alors, on a du mal à se représenter tout ça. Il y a quelque chose qui est frappant dans ces films, Anne-Marie Lagrange, et dans l'univers, en fait, en général, c'est la diversité, justement, des formes. Enfin, patates, cacahuètes, madeleines, ravioli. On est ébahi par cette diversité, alors, de matériaux qu'utilise Geneviève, pour représenter une diversité insensée.
Alors, c'est ça. En fait, tout le monde est ébahi, nous les premiers.
À vous aussi, chercheurs.
Ah oui, tout à fait. La diversité des systèmes planétaires est quelque chose qu'on n'attendait pas. Et on s'aperçoit que dans leur architecture, tout à l'heure, on parlait des planètes telluriques du type terrestre qui sont près de du Soleil et puis les gazeuses qui sont loin. Dans les observations qu'on a faites jusqu'à maintenant, les systèmes planétaires extrasolaires, on a tout et n'importe quoi, je dirais.
Ah,
on a des grosses planètes, des géantes comme Jupiter, qui sont tout près de leur étoile, qui sont 100 fois plus proches de leur étoile que Jupiter n'est du Soleil. Et puis, on a des planètes telluriques qui vont être plus loin. On a une variété que personne, vraiment personne, n'aurait imaginé.
Et ce qui veut dire quoi? Enfin, non pas que tout est possible, mais un peu... que tout est possible dans l'univers, finalement. Enfin, avec certaines lois, mais que ça peut donner des choses totalement...
Quand on discute avec Geneviève, on voit que, effectivement, vous partez d'une recette avec les mêmes ingrédients. Eh bien, selon les conditions de température dans votre cuisine, par exemple, vous n'allez pas faire lever la pâte de la même manière. Vous allez, au bout du compte, obtenir des choses très différentes. Bah, c'est un petit peu pareil. On part d'hydrogène, essentiellement d'hydrogène, d'hélium et puis un petit peu de poussière. Et au bout du compte, on a des systèmes planétaires très différents.
Pour mieux comprendre, hein, pour vérifier ce que vous vérifiez dans votre cuisine, Geneviève Hanouri, vous reprendrez bien, chers amis auditrices et auditeurs, quelques bouchées planétaires, épisode 13 d'Astronome Gastronome.
Qui ne s'est pas un jour demandé, en observant le ciel nocturne, si une autre planète ressemble à la Terre ? Construire l'image d'une exoplanète, c'est très compliqué. Toutes ces planètes qui sont situées hors de notre système solaire sont petites et peu lumineuses, comparées aux étoiles. Et elles sont beaucoup trop loin pour qu'on puisse s'en approcher. La plus proche que l'on connaisse est à plus de 39 700 milliards de kilomètres. C'est comme si on essayait de voir une orange sur Terre depuis la Station spatiale internationale. Pour voir directement une exoplanète, le plus souvent, on cache son étoile qui nous aveugle. Puis, une fois repérée, notre seul moyen d'y détecter d'éventuels signes de vie, c'est d'analyser la chimie de l'atmosphère de la planète. Tout ce qu'on a découvert pour l'instant, c'est la grande diversité des atmosphères autour des exoplanètes. Il est difficile de concevoir des scénarios originaux d'apparition de la vie dans des conditions différentes de celles prévalant sur Terre. Sera-t-on un jour capable de reconnaître une autre forme de vie que celle que nous connaissons ?
Dans la voix de la comédienne, non de la femme de radio, Juliette Arnaud, sur une musique d'Hélène Blasi. C'était donc l'épisode 13. Ils font 3 minutes chacun parmi cette série de 20 épisodes d'Astronome Gastronome. Alors on ne peut pas répondre à cette question, Anne-Marie Lagrange. Sera-t-on un jour capable de reconnaître une autre forme de vie que celle que nous connaissons ? Mais vous travaillez quand même là-dessus, hein ?
Alors, moi, je travaille plutôt pour chercher les planètes, pour chercher les bonnes planètes autour des bonnes étoiles.
Où il y aurait peut-être des
signes de vie. Pour l'instant, c'est très compliqué. On ne sait même pas vraiment dire quels vont être les bons critères pour trouver.
C'est ça, qu'est-ce qu'il faut chercher.
Voilà.
Qu'est-ce que vous n'avez pas réussi, Geneviève Hanouri, à représenter dans cette série Astronome Gastronome, ou sur quoi vous travaillez ? Parce qu'on a vraiment l'impression que, à le regarder, c'est extrêmement ludique, ça marche, ça fonctionne et on comprend, mais il y a dû avoir des impossibilités, j'imagine.
Alors, il y a eu une fois un écueil, par exemple, c'était d'essayer avec de la barbe à papa, de passer, vous savez, l'idée qu'au départ, il y a eu des filaments, que le cosmos était une sorte de... On a l'impression qu'il y avait des filaments et que la barbe à papa, si on l'écarte, on allait pouvoir passer la caméra à travers des filaments. Et en fait, c'est impossible. Déjà, la caméra n'arrive pas à faire le net sur la barbe à papa parce que tout est tellement fin. Tellement. Donc, on a pris finalement. J'avais de la vieille alfalfa, vous savez,
l'alfalfa
germée. Voilà. Et j'avais vraiment une boîte que j'avais laissée traîner parce que ça marche aussi de laisser moisir ou laisser traîner des choses. Vous voyez des paysages qui se forment comme ça, qui ressemblent parfois à des choses d'astronomie. Yo, par exemple, ça peut ressembler à une orange moisie aussi. Et l'alfalfa, quand vous la prenez, quand elle est toute sèche, si vous l'écartez un petit peu, vous avez des filaments avec des petites boursouflures qui sont les graines. Et si vous l'éclairez, si vous l'éclairez avec une lumière jaune, elle est bien dorée. Et si vous l'éclairez avec de la lumière noire, elle devient toute bleue. Et on a utilisé les deux images dans la série. Et vous pouvez passer un petit peu à travers. Et ça
et donc
marche
avoir
pour faire...
ce sentiment-là des filaments.
Voilà, filaments des sortes de filaments du début de l'univers. Hein, quand on représente, quand on voit en fait c'est virtuel, les films virtuels qui sont faits par les gens qui travaillent avec les astrophysiciens, ce sont des sortes de filaments. Hein, je me trompe, je vous regarde. Et moi, justement, avec la série, je voulais que tout soit organique. Il n'y a absolument aucune image qui est virtuelle. On a utilisé le virtuel uniquement pour faire le collage virtuel des images les unes sur les autres et aussi de mettre les planisphères. Donc j'ai fait des planisphères de planètes et ensuite on les a collés sur des boules virtuelles et là on peut les faire tourner. Mais sinon toutes les textures sont organiques.
Vous vous y reconnaissez, ce sera peut-être ce qu'on va à suivre notre éphémérie du ciel d'Afrique. Vous vous y reconnaissez, vous salivez en travaillant et en regardant les vidéos.
On travaille avec Geneviève, on a toujours très faim assez rapidement.
C'est ça, Anne-Marie Lagrange.
Pareil, tout confirmé. À l'heure, je l'ai félicité sur sa boule de sésame.
Bon, la prochaine fois, vous reviendrez, Geneviève, en nous apportant peut-être quelque chose à goûter, oui. De planétaire, d'interstellaire. En tout cas, un seul conseil à la fois astronomique et gastronomique à tous nos auditeurs et auditrices, vraiment, et pour le plaisir aussi. Je vous renvoie, le lien est sur notre page d'ailleurs, sur cette formidable série Astronome-Gastronome, 20 fois 3 minutes, à déguster sans modération sur le blog d'Univers Science. Et je vous rappelle donc que le lien est sur notre page. Je vous renvoie aussi sur votre ouvrage collectif, Sébastien Charnoz, Les mondes de Saturne, paru aux éditions Belin, auquel nous avions consacré une émission et qui vient de recevoir le prix du livre astronomique 2023 décerné par la revue Ciel et Espace. Bravo. Et voilà ce qui devrait réjouir tout notre inspirant réseau d'astronomes amateurs sur le continent africain, tous nos lauréats et lauréates de lunettes astronomiques offertes par SSVI et RFI que l'on salue, en particulier la toute dernière, Adjara Toulingani à Ouagadougou, qui va pouvoir enfin créer le premier club d'astronomie du pays. Bravo Adjara Tou. Merci à vous qui nous suivez chaque mois. Notre éphémérie du ciel d'Afrique, ce sera à suivre donc juste après un petit clin d'œil aux astronomes, gastronomes qui ont aussi de l'oreille. Écoutez voir quel était le dessert préféré de Louis Armstrong sur RFI. Cheesecake, munching on a cheesecake, munching on a cheesecake. Cheesecake. Cheesecake, munching on a cheesecake, munching on a cheesecake. Cheesecake. Cheesecake, gobble gobble, cheesecake, gobble gobble, cheesecake. Cheesecake. Cheesecake, gobble gobble, cheesecake, gobble gobble, cheesecake. Cheesecake, munching on a cheesecake, munching on a cheesecake. Cheesecake. Oh, cheesecake, munching on a cheesecake, munching on a cheesecake. Cheesecake. A cheesecake, gobble gobble, cheesecake, gobble gobble, cheesecake. Cheesecake. A cheesecake, gobble gobble, cheesecake, gobble gobble, cheesecake. Cheesecake. C'est bon, le cheesecake de Louis Armstrong sur RFI. Et c'est l'heure de retrouver notre éphéméride mensuelle du ciel d'Afrique, concoctée comme chaque mois par le professeur Sylvain Boulet.
Ciel d'Afrique sur RFI. En partenariat avec l'Astronomie Afrique, Caroline Lachowski.
Cher Sylvain Boulet, quels sont les moments astronomiques à ne pas rater d'ici au 15 juin ?
Bonjour Caroline. Alors on profite encore et encore de la lumineuse planète Vénus très haute sur l'horizon ouest dans le ciel du soir. Alors cette planète, hein, je vous le rappelle, un peu la sœur de la Terre, même si aujourd'hui elle ne lui ressemble plus du tout. Grande comme la Terre, la durée du jour est de 243 jours terrestres. Imaginez des nuits et des jours sans fin, une météo monotone car c'est nuages tous les jours et vous ne verriez même pas le soleil si vous partiez en vacances sur l'étoile du berger. Alors avec des températures proches des 500 degrés, la planète est bien évidemment invivable, même pour les robots à actuelle. Alors, c'est actuellement le point le plus lumineux du ciel et je vous conseille tout particulièrement les 22, 23 et 24 mai au soir pour l'observer. Alors, le 22, Vénus sera au-dessus de la Lune. Le 23, elle sera très proche d'un joli croissant lunaire. Et le 24, la Lune sera au-dessus de Vénus. Et avec un télescope, eh bien, vous verrez sans mal que Vénus montre un joli quartier.
Quelles autres planètes, à part Vénus, seront observables sous le ciel d'Afrique ?
Alors, en première partie de nuit, seules les planètes Vénus et Mars sont observables. Les deux planètes se rapprochent tout doucement et seront vraiment à côté mi-juin. Je vous conseille d'observer la Belle Rouge le 24 mai au soir, lorsqu'elle sera à côté d'un magnifique croissant lunaire. Pour voir les autres planètes, eh bien, il faudra se lever un peu tôt ou se coucher tard selon vos préférences. En fait, la planète Saturne, eh bien, est de plus en plus visible toute la deuxième partie de nuit. Vous la verrez se lever à l'horizon est dans la constellation du Verseau et culminer au sud avant le lever du Soleil. Et ne manquez pas son joli rapprochement avec la Lune le 10 juin. Alors pour Jupiter et Mercure, il faudra attendre plutôt les lumières de l'aube pour les observer basses sur l'horizon est. À noter, deux jolis rapprochements entre la Lune et Jupiter le 17 mai et le 10 juin au matin.
Avez-vous peut-être une constellation à nous faire découvrir, Sylvain ?
J'invite ce mois-ci nos auditeurs à découvrir les constellations du Centaure et du Loup, qui sont un peu difficiles à voir sur l'horizon pour les pays du nord de l'Afrique, mais qui deviennent très faciles à détecter pour les observateurs de l'hémisphère sud et proche de l'équateur. Alors le Centaure, qui est très connu, c'est l'une des plus vastes constellations. On est censé y voir une créature mi-homme, mi-cheval. Et le Loup, qui est une vieille constellation finalement peu observée, eh bien, pour les Grecs, il s'agissait d'un animal que le Centaure portait empalé sur sa lance. Et c'est dans cette constellation, en fait, qu'en 2006, eh bien, il y a eu une supernova qui a été observée, plus brillante que Vénus pendant 2 ans. Eh bien, cette explosion d'étoiles a été relatée dans des textes par de multiples civilisations.
On va chercher ça et surtout chercher la constellation du Loup. Merci Sylvain Boulet, on se donne rendez-vous le mois prochain sous le ciel d'Afrique.
Oui Caroline, je vous rappelle évidemment qu'une nouvelle lunette astronomique est toujours mise en jeu grâce à nos partenaires SSVI et RFI. Pour participer, c'est très simple, il suffit d'envoyer sur notre page Facebook L'Astronomie Afrique vos plus belles photos, vos vidéos ou encore un joli texte que vous avez écrit. Et le gagnant sera annoncé au mois de juillet. Eh bien, bonnes observations, bon su à tous et n'oubliez pas, le ciel est le plus grand écran, il suffit de lever les yeux.
Merci de nous le rappeler chaque mois, cher Sylvain Boulet, à bientôt. Ciel d'Afrique, c'est à suivre tous les 15 du mois sur notre antenne et avec les images en plus sur la chaîne YouTube de RFI. Qu'on se le dise en plus sur cette musique originale, entièrement composée à partir de sons de cuisine. C'est le générique de vos premières vidéos, Geneviève Anouri. Qui a mangé la soupe cosmique, réalisée en collaboration avec l'astrophysicien Sébastien Charnoz ici présent et avec Anne-Marie Lagrange, astrophysicienne également. Merci aux astrophysiciens, à la vidéaste artiste d'avoir pris sur votre temps pour être en direct avec nous. Et n'hésitez pas, chers amis auditrices et auditeurs, à vous plonger dans cette série astronome, gastronome, à déguster sans modération sur le site Le Blob, l'extra média d'Univers Science. Le lien est sur notre page. Merci Geneviève, vous revenez quand vous voulez, avec ou sans soupe cosmique.
Merci à vous.
Peut-être un pudding de Noël, il me semble.
Peut-être un cosmic pudding de
Noël.
Un
cosmic pudding. Anne-Marie Lagrange, vous revenez quand vous voulez. Autour du cosmic pudding, pourquoi pas.
Par exemple.
Par exemple. À bientôt Sébastien Charnoz.
Merci, je reviendrai aussi.
Oui, revenez quand vous voulez.
Autour de la question sur internet, www.rfi.fr.
Autour de la question, c'est fini pour aujourd'hui. Vous pouvez aussi nous retrouver en rediffusion à 23h, temps universel. N'hésitez pas à partager, à vous abonner à notre podcast. Au plaisir de vous retrouver demain avec Thibaut Baduel à la réalisation, Caroline Fillette en coulisses, autour d'un autre partageur de science, au nord comme au sud, le professeur Philippe Kourilski, immunologiste engagé à l'Institut Pasteur comme au Collège de France, où il a créé la chaire Savoir contre pauvreté. Merci pour votre curiosité sans cesse renouvelée. Surtout gardez l'esprit libre et ouvert à tous les possibles, la tête dans les étoiles, les mains dans la farine et les pieds sur terre, pourquoi pas. À l'écoute de RFI, c'est bientôt l'heure du prochain journal.